Bonjour à tous, l'émission d'aujourd'hui a été préparée par Marguerite Caton, Aliette Ovine, Léa Sabourin et Antoine Jourdan, à la réalisation Philippe Baudouin, à la technique Clément Daté. C'est le deuxième épisode de notre série intitulée « Quand je me regarde, je me désole. Quand je me compare, je me console. » Après avoir sillonné le Royaume-Uni hier et avant de prendre la direction de l'Espagne demain, nous nous envolons aujourd'hui pour la Pologne, l'un des meilleurs élèves de la classe européenne. Le pays a été applaudi pour sa gestion de la crise sanitaire et s'il est entré en récession cette année, c'est au terme de 30 années de croissance sans interruption. Alors malgré la hausse du nombre de cas, la Pologne sortira-t-elle indemne de la pandémie? C'est la question qui va nous occuper jusqu'à 15h. Soyez les bienvenus dans Entendez-vous l'écho. Nous allons ausculter l'économie polonaise en compagnie de Maciej Witulski, le président de la Confédération Léviathan, l'équivalent du MEDEF en Pologne. À 14h50, ce sera l'heure du journal de l'écho présenté par Xavier Martinet. Bonjour Maciej Witulski.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous depuis Varsovie. Alors un point d'abord sur la situation sanitaire. Le nombre de cas augmente aujourd'hui en Pologne comme ailleurs en Europe, mais avec un bilan de 2227 morts à ce jour. C'est l'un des pays européens où le virus a été le mieux contrôlé. Comment est-ce que vous l'expliquez, Maciej Witulski ?
Alors effectivement, on a des ratios qui sont très bas. Jusqu'à aujourd'hui, on a noté 75 000 cas, on parle de 2 200 victimes. Il y a une légère croissance des nombres des cas, mais ça reste quand même très limité. C'est un phénomène, alors là, je suis pas un spécialiste des virus, ce qui est chose rare aujourd'hui où tout le monde a une opinion là-dessus. Mais ce que l'on nous dit, c'est d'un côté, parce qu'il y avait une réaction comme très forte, très rapide du gouvernement, ça c'est très clair, c'est palpable, c'est immédiatement... De façon beaucoup plus rapide que d'autres pays européens, l'État polonais a fermé les frontières, a quasiment fermé la majorité de l'économie polonaise. Il y a aussi d'autres raisons secondaires. Il y a, par exemple, le fait, on le croit quand même un peu, de la composition plus conservatrice ou plus traditionnelle de la société. Beaucoup moins de personnes dans les maisons de retraite. Donc une moindre condensation ou concentration des personnes âgées qui sont plus exposées au virus. Le fait que nos grands-mères, nos grands-pères habitent encore avec ses petits-enfants, ça a pu sauver des vies. Et puis à la fin, une hypothèse qui, pour moi, pas confirmée scientifiquement, c'est le fait que dans les pays d'ex-bloc communiste, il y avait quand même des vaccinations qui étaient beaucoup plus répandues, avec des qualités de vaccins qui n'étaient pas nécessairement très bonnes, mais ça a peut-être effectivement donné un peu plus de résistance à des populations de la Pologne, mais aussi des pays voisins, y compris d'ailleurs la Russie, où le nombre des cas est très élevé et les nombres des victimes paraît quand même plus faible que dans les pays occidentaux. Donc là, il y avait ces éléments-là, mais surtout, je pense que le premier élément, ça a été la décision très rapide du gouvernement polonais d'aller dans des mesures assez radicales.
Une décision qui a effectivement été saluée, mais on peut aussi voir, Maciej Witulski, la radicalité des mesures sanitaires et leur précocité comme un aveu d'impuissance face à un système médical défaillant. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Mais je pense que c'est peut-être une vision rationnelle du système qui a conduit le gouvernement à prendre cette décision. Effectivement, nos systèmes de santé, alors déjà les systèmes de santé globaux, y compris dans l'Europe occidentale, sont quand même, je dirais, pas complètement à la mesure des vieillissements de la population. En Pologne, c'est encore plus vrai. Donc effectivement, le gouvernement a quand même pris des mesures qui ont sauvé les hôpitaux, le système médical polonais, effectivement plus faible que celui, par exemple, de la France que je connais. On est les mieux en Europe,
d'une congestion
de malades qui aura pu effectivement aggraver la situation. On n'a jamais connu ça. Par exemple, dans une ville de Varsovie, on avait un hôpital tourné en hôpital spécialisé pour traiter des malades, mais effectivement, avec le nombre des cas qui oscillait dans quelques centaines par jour, on était quand même dans le pic. On est passé à 900 cas détectés à la journée sur l'ensemble du territoire national, et en période chaude au début de la pandémie, on était à 300, 400, 400 cas. Alors peut-être aussi le système de détection n'était pas à la hauteur, mais de toute façon, on n'a pas vu la congestion. Et on a vu très peu de cas très concentrés au début dans les quelques maisons de retraite. Aujourd'hui, effectivement, on voit des cas par exemple dans les grosses entreprises où on peut trouver dans l'agroalimentaire, par exemple, il y avait quelques cas où il y avait des centaines de malades. Il y avait les mines de charbon où soudainement on découvrait quelques centaines de personnes avec les Covid en même temps. Mais effectivement, le système n'a jamais été submergé. Donc on n'a jamais souffert d'une situation de crise. Alors est-ce que le gouvernement a prévu ça? Peut-être oui. Donc c'est peut-être les côtés rationnels qui a fait réagir, surréagir pour protéger le système médical qui n'est pas complètement celui de la France.
Je le disais, la Pologne est entrée en récession pour la première fois depuis la chute de l'URSS, mais cette récession devrait être la plus faible de toute l'Union européenne, environ 4% sur l'année 2020. La bonne santé économique de la Pologne lui permet de mieux faire face au choc, Mathieu Witowski.
Alors oui, d'un côté, effectivement, c'est vrai que quand on compare avec la France, la période la plus dure qui était le deuxième trimestre de cette année, là où la France, je crois, est passée à moins 19% du PIB, la Pologne à moins 8%.
Je crois que c'était plutôt 13 ou 14% du côté de la France et 20% du côté du Royaume-Uni pour le deuxième trimestre.
Peut-être en Pologne, on essaye de nous faire encore remonter le moral en nous disant que c'est encore plus grave dans les pays occidentaux. Mais de toute façon, en Pologne, c'est moins 8. Et là-dessus, ce qui est important, c'est surtout l'élément de la consommation. De la consommation en Pologne, dans le pire des moments, dans le deuxième trimestre 2020, il n'a baissé qu'à peu près de 10-11%. Donc ce qui nous a sauvés, d'ailleurs, c'est le cas qu'on a eu aussi en 2008-2009 à la crise financière, c'est que les Polonais restent quand même des consommateurs farouche. On a quand même marché intérieur de 38 millions de consommateurs, et l'optimisme de la population fait que effectivement ça fait quand même tourner en partie l'économie. Donc ça c'est un élément. Deuxième élément, c'est que par exemple comparé à nos pays voisins comme la République tchèque, la Slovaquie ou la Hongrie, la Pologne n'est pas très dépendante d'une seule industrie. Nous avons pendant des années, nous avons été quand même un peu malheureux d'avoir perdu des appels d'offres pour le placement des grosses usines automobiles qui choisissaient plutôt nos voisins. Mais comme résultat, notre activité économique est beaucoup plus dispersée. Donc nous ne sommes pas aussi dépendants que nous les croyons, d'ailleurs même nous-mêmes, de l'économie allemande. En 2009-2008, on disait que voilà, l'Allemagne est malade, la Pologne commence à avoir un rhume. Aujourd'hui, l'Allemagne a effectivement plongé dans la crise du Covid. La Pologne a su diminuer ou au moins maîtriser ou peut-être contenir cette chute. Donc là, on a les éléments qui sont, mais je pense qu'en grosse partie, c'est la diversité de l'économie, c'est la force des tissus des toutes petites entreprises. La Pologne, on a par rapport à la moyenne européenne, on a une surreprésentation des PME, de toutes petites PME d'ailleurs. Donc du coup, c'est des entreprises qui ont d'un côté qui s'adaptent beaucoup plus facilement que les grosses entreprises, qui licencient quand même beaucoup moins facilement que les grosses entreprises. Et ça, plus la consommation interne, effectivement, ça
a permis à la Pologne de se maintenir à flot. Alors on va examiner les recettes du succès polonais. Et d'abord, revenons quelques décennies en arrière, si vous le voulez bien, plus précisément en 1956.
La presse polonaise a insisté sur la situation chaotique, disait-elle, de l'économie du pays. On rend généralement responsable de cette situation, d'une part, l'extrême centralisation et la bureaucratisation de l'économie, d'autre part, les conceptions mêmes du plan de 6 ans qui s'est achevé tant bien que mal il y a 6 mois, et qui avait imposé à la Pologne un effort d'industrialisation nettement supérieur à ses forces. Les salaires, comme l'avait proclamé dans un rapport retentissant M. Okab lui-même, premier secrétaire du parti, étaient si bas que la plupart des travailleurs devaient, et doivent toujours, exercer un second métier pour gagner péniblement le minimum vital.
Une archive du 16 juillet 1956. Quel est l'état de l'économie polonaise dans les années 50, Mathieu Witowski?
Oui, alors c'était pas à l'époque, c'était pas même pas une économie polonaise, c'était une économie d'une colonie du bloc soviétique. Donc ça a été une économie lourde, une économie effectivement très centralisée. Alors avec une force qui continue jusqu'à aujourd'hui, c'était la force de l'agriculture privée. On avait quand même, on était une exception sur les, pendant toutes ces années-là, nous étions une exception sur les plans de toute la région, avec 80% du territoire qui était quand même de terres agricoles qui étaient détenues par les propriétaires privés. Mon propre grand-père est allé en prison pour avoir refusé de donner son, sa ferme à un kolkhoz qu'on essayait de créer dans la région. Donc, ça, effectivement, c'était une grande différence et c'est une grande différence qui reste valable, je pense, jusqu'à aujourd'hui, parce que la Pologne est aujourd'hui, entre autres, un champion d'agroalimentaire. Si on parle, par exemple, des bilans commerciaux entre la Pologne et la France, il est négatif pour la France, et il est négatif, alors là, ça doit être terrible pour les Français, parce que ces côtés négatifs est surtout creusé par l'importation en France des biens d'agriculture polonaise. Donc ça, c'est un élément qui a toujours été une force, et qui s'est encore développé avec la modernisation de l'agriculture polonaise dans les dernières 15 années. Donc c'était quand même les fonds européens qui ont beaucoup aidé au développement d'un côté de l'agriculture, donc d'autre côté de l'industrie agroalimentaire. Aujourd'hui, l'agro, c'est quand même l'exportation de la viande, c'est quand même un point très fort de l'économie polonaise.
La Pologne est le premier producteur de poulet en Europe et aussi de tomates, des tomates qui sont exportées jusqu'en Espagne.
Et on a effectivement été très fiers dans les périodes de sécheresse d'avoir réussi à exporter des tomates en Espagne. On est aussi les premiers producteurs de fruits rouges maintenant. Donc c'est un mélange bien sûr de cette tradition agricole qui n'a pas été détruite par la période du communisme, mais aussi du fait qu'on a d'autre côté la main d'œuvre qui est encore relativement peu chère. Donc dans ces domaines dans lesquels les manuels restent encore importants, la Pologne a su exploiter ces atouts. Donc ça effectivement. Ça reste valable depuis les années 50. Par contre, industriellement, c'était une énorme révolution dans les années 90. La Pologne industrielle, la Pologne de l'industrie lourde, même la Pologne du charbon. Alors là, ça sonne un peu révolutionnaire. Mais le jour où Ursula von der Leyen a annoncé l'accélération des mesures vertes en Europe, il est peut-être bon de rappeler que d'un côté, la Pologne a énormément diminué ses émissions de CO2 par les fait d'extension de l'industrie lourde, et de l'autre côté que la Pologne d'aujourd'hui roule, gérée par un parti qui pendant les 5 dernières années s'accrochait encore au charbon, aujourd'hui c'est une Pologne dans laquelle il est complètement acceptable de parler du photovoltaïque, de parler des éoliennes.
On va revenir, Mathieu Witowski,
sur
cette transition énergétique, c'est un sujet effectivement absolument essentiel, mais restons encore un petit peu sur l'histoire. Lorsque le bloc soviétique s'effondre, c'est l'échec Balcerovitch qui va être choisi pour mener la transition vers l'économie de marché. Il devient ministre des Finances en septembre 1989 et dans une interview réalisée en 2009, il revient sur cette période de basculement pour la Pologne.
Je travaillais de l'intérieur. Quand j'étais membre du Parti communiste, j'ai mis en place de manière informelle un groupe d'économistes polonais pour travailler sur de possibles réformes économiques radicales, avec l'espoir que les dirigeants pourraient être convaincus. Nous nous sommes demandé comment nous allions pouvoir privatiser l'économie, la dérégler, faire baisser l'inflation. Et par chance, nous étions à peu près prêts au moment de la chute du communisme. Mais laissez-moi souligner le fait que lorsque nous nous préparions, nous n'avions pas prévu, nous n'avions pas planifié, nous n'avions même pas imaginé que nous pourrions mettre en œuvre nos réformes. Mais la Pologne s'est libérée. D'une certaine manière, nous avons gagné cette liberté grâce au mouvement Solidarnosc. Et lorsqu'on s'est mis à la recherche d'une personne qui pourrait chapeauter la réforme économique et la stabilisation de la Pologne, on s'est tourné vers moi. J'ai accepté, et c'est ainsi que tout a commencé.
Mathieu Witowski, que vous inspire ces propos de l'échec Balcerowicz, qui va donc lancer un vaste plan de transformation de l'économie polonaise dans les années 90 ?
Je pense que ça me rappelle ma jeunesse, si j'ose dire, et ça me rappelle effectivement les origines des succès polonais, les origines qui restent encore valables aujourd'hui. Bien qu'on a des points, je reviendrai là-dessus, où le gouvernement actuel voudrait changer. Donc la Pologne a toujours été basée sur l'entrepreneuriat. Alors là, d'un côté, il y avait l'agriculture privée. D'autre côté, même sous le régime communiste, il y avait les tissus des toutes petites entreprises qui existaient, malgré toutes les difficultés qu'on leur créait. Et puis du coup, en 1989, quand le régime communiste a disparu, et on avait cette tissu de cette explosion de la liberté économique, cette explosion d'entrepreneuriat. Tout Polonais se sentait soudainement un peu comparable au rêve américain entrepreneur potentiel ou milliardaire potentiel. On avait une explosion de tout petits commerces. Alors en même temps, bien sûr, avec des souffrances sociales, parce que la fermeture des grosses usines, la fermeture ou la grosse réduction de l'industrie lourde, mais aussi de la production de charbon, du coup, ça a créé des chômages qui s'est envolé au-dessus de 20%. Donc les populations d'un côté souffraient, d'autre côté elles étaient forcées, c'était une transformation forcée, parce que comme il y avait un système d'aide sociale quasiment inexistant, on peut pas vivre à l'éternité avec la retraite de la grand-mère. Et donc les gens étaient bien obligés quelque part de se débrouiller. Et je pense que dans la grosse majorité, alors pas tous les cas, mais dans la grosse majorité, les millions de Polonais ont passé cet examen. En même temps, cette privatisation, elle a été effectivement un peu improvisée. Donc même M. Balcerowicz disait qu'on était pas prêt, on n'y croyait pas. Je dirais un an, deux ans avant la chute du communisme, personne n'y croyait que ça allait se passer aussi rapidement. Mais par la suite, très rapidement, la privatisation, sans créer des grosses fortunes oligarches, c'est aussi je pense que un succès de la Pologne, c'est que effectivement c'était plus la privatisation. Donc il y avait des entreprises qui passaient éventuellement dans les mains de grosses entreprises occidentales, mais on n'a pas créé une injustice interne. Les grosses entreprises occidentales, elles ont ramené du capital, mais elles ont aussi ramené de la nouvelle technologie, elles ont ramené du capital, et ça a créé la fondation de la Pologne, que aujourd'hui, alors je pense que les années 90, effectivement, c'était la privatisation, la grande transformation et la grande, quelque part, même la souffrance de la population, parce que si on parle chômage 20% avec quasi zéro couverture sociale, ça a été quand même difficile pour une grosse partie de la population, tandis que les années 2000, ça a été quand même le grand succès du modèle libéral. Par la suite, on a encore reçu les dopages supplémentaires par le budget européen. Donc ça, effectivement, que ça soit pour le petit business polonais, pour l'agriculture, pour la culture, on voit à Varsovie.
On peut donner un chiffre peut-être, Mathieu Witowski. Les fonds structurels alloués par Bruxelles, c'est une enveloppe de 86 milliards d'euros pour la période 2014-2020, pour qu'on ait un peu un ordre d'idée.
Exact, exact. Mais pour avoir un ordre d'idée, c'est par exemple l'aide, là maintenant avec la période de Covid, les aides qui nous ont déjà été attribuées, c'est 27 milliards d'euros pour le budget des reconstructions, le budget Macron-Merkel, et 11 milliards d'euros pour la lutte contre le chômage, qui a presque pas augmenté en Pologne. Et ces deux chiffres-là, ça sera étalé sur 2 ou 3 ans, mais ces deux chiffres-là ensemble, les 38 milliards d'euros, ça fait 7,5% du PIB polonais. Donc c'est quand même les budgets européens, ça a été un énorme accélérateur pour le développement de l'économie polonaise. Toujours basé sur le privé. Alors maintenant, on a des grands débats, parce qu'effectivement, le gouvernement actuel, l'équipe actuelle, il a quand même certaines tendances de la création, de récréation de grands capitales polonais, basé un peu ce que j'appellerais moi les gaullismes à la polonaise. Donc le retour des champions nationaux, la création des grosses entreprises, les grands projets d'infrastructure, même le nucléaire. Donc là, je ne suis pas complètement sûr que ce soit dans la lignée de tous nos succès des 30 dernières années.
Mais encore un mot, peut-être, Mathieu Witowski, sur cette période d'ouverture à l'économie de marché. Quel est le secret de la réussite industrielle de la Pologne, dont le secteur manufacturier pèse aujourd'hui plus de 23% du PIB? C'est deux fois plus qu'en France.
Oui, alors là, c'est, je pense que c'est quand même la qualité de la main d'œuvre. C'est le prix et la qualité, parce qu'il y a pas que le prix. La Pologne a su trouver sa place quelque part entre les usines très peu chères, mais des piètres qualités placées en Asie, et l'industrie trop coûteuse dans l'Europe occidentale. Donc la Pologne, effectivement, n'a pas des grosses entreprises d'automobiles fabriquant des milliers de voitures neuves, mais par contre, une énorme quantité de la sous-traitance pour l'automobile, qui permet de disperser un peu le risque, qui permet de disperser un peu même les risques sociaux. Et ça, ça, c'est dû au fait que quand je parlais à l'époque où j'étais par exemple président de la Chambre des commerces franco-polonaise à Varsovie, et quand on parlait avec des investisseurs français, ce qu'ils appréciaient, c'est d'un côté la soif, et on parlait déjà de la consommation, donc c'est la soif de succès, la soif de la consommation des Polonais, donc qui cherchaient à gagner plus, qui cherchaient donc du coup à travailler plus, et de l'autre côté, c'est aussi la qualité de la formation professionnelle que nous avons hérité quelque part après les régimes communistes. Donc on avait quand même une tradition des métiers de technicien qui était assez forte et qui a permis de construire cette industrie nouvelle avec en grosse partie des capitaux occidentaux effectivement qui venaient s'installer dans les années 90.
Et puis il y a eu aussi la fiscalité. Plus récemment, le gouvernement polonais a mis en place des zones économiques spéciales où les entreprises peuvent bénéficier d'exonérations fiscales pendant 5 ans. C'est un aspect qui a beaucoup joué pour vous, Maciej Witowski.
Je pense que c'est effectivement c'est assez important. C'est quand vous êtes dans un pays qui ne va pas dans les taxes les plus basses en Europe, c'est pas Irlande, mais en même temps vous avez l'impôt sur la société qui est des 19%. Vous avez l'impôt effectif sur les salaires, l'impôt personnel qui est de l'ordre de, ça dépend des salaires, mais ça ne va jamais au-delà des 35-38% de taux effectif. Donc ça crée une zone qui attirait aussi des investisseurs. Alors, le gouvernement actuel a aussi étendu ces zones économiques spéciales sur l'ensemble du territoire. Ça ne va pas durer éternellement parce qu'il y a quand même la Commission européenne qui ne voit pas d'un bon œil la continuation de cette distorsion quelque part de la loi concurrentielle.
La Pologne est régulièrement accusée de dumping fiscal et social, en effet, depuis de plusieurs années.
Oui, dumping, je dirais, ça c'est quelque chose qui reste discutable parce que dans la communauté européenne, dans l'Union européenne, nous avons des pays à des taux de fiscalité qui sont comparables à ceux de la Pologne. Alors en Pologne, quand on parle de dumping, on a aussi une très forte croissance des salaires moyens et salaires minimums en Pologne. Pour vous donner un exemple, aujourd'hui, en pleine période de crise de Covid, le gouvernement a quand même décidé d'augmenter les salaires minimums en Pologne de plus de 7%. Et ça parce que il y a des promesses effectivement de transferts sociaux qui ont été faites au début de la il y a 4 ans 5 ans au début du règne du parti droit et justice et du coup la continuation de ces promesses est réalisée.
La crise n'a pas interrompu.
Non.
Alors le PIB polonais a bondi de 90% entre 1989 et 2009, mais la contrepartie de ce modèle, c'est tout de même que le droit du travail est peu protecteur et qu'on a beaucoup de formes de travail précaires en Pologne, Maciej Witowski.
Oui, alors là en Pologne, effectivement, nous avons cette spécificité dans laquelle il y a une utilisation assez forte du travail, et c'est pas des travails temporaires, c'est des formes de travail à court terme, ou plutôt c'est pas les pleins contrats de travail, où ça va jusqu'à 40% des Polonais qui sont employés dans ces formes-là. C'est aussi dû au régime de fiscalité. C'est le fait que, par exemple, en Pologne, il y a énormément des entreprises unipersonnelles qui permettent tout simplement à des gens qui ont des professions libérales de passer à un impôt personnel de 30% plus à un impôt linéaire de 19%. Donc ça a poussé aussi à privilégier ces formes-là d'emploi.
D'où les 3 millions d'auto-entrepreneurs en Pologne, Maciej Witowski.
C'est ça, et ces auto-entrepreneurs, en grosse partie, effectivement, font de façon consciente une optimisation fiscale, sachant que, de toute façon, le régime des retraites en Pologne ne leur garantit pas du tout des taux de substitution acceptables. Donc, pour vous donner un exemple très, très personnel, j'ai été quand même PDG de plusieurs entreprises dans ma carrière des 30 dernières années, et dans cette carrière, après cette carrière, là, ma retraite va être aujourd'hui, selon l'Office polonais des retraites, va être de l'ordre de 900 euros par mois. Et donc, quand vous avez ce type-là d'incitation à rester dans un régime de contrat de travail, effectivement, vous êtes automatiquement poussé vers l'auto-emploi comme une forme qui vous permet quand même de gagner sur la charge fiscale et éventuellement d'investir par vous-même. Donc ça, c'est encore les restes des ADN polonais très libéral. Et il reste très libéral. Quand vous parlez avec les jeunes, ils sont quand même encore très fortement influencés influencé par par la philosophie de M. Balcerovitch. Je pense que c'est quand même assez exceptionnel, même à l'échelle européenne.
Mais le PiS, le parti au pouvoir, Droit et Justice, a tout de même lancé une politique sociale en faveur des retraités et des familles qui explique aussi sa popularité aujourd'hui, Mathieu Witowski.
Complètement. Il faut admettre quand même que dans cette phase de 30 dernières années, d'une accélération rapide de niveau de vie des Polonais, il y avait quand même aussi une disparité de niveau. Et peut-être pas nécessairement une disparité de, il y avait une disparité de niveau de vie, mais quelque part aussi de respect. Ces modèles un peu américains, ou très fortement américains plutôt, dans lesquels le succès, le travail, les salaires, et la consommation étaient quand même les éléments de votre succès personnel. Il y avait toute une population qui était quand même délaissée dans les petites villes dans lesquelles les entreprises d'État ont disparu, dans les quelques régions dans lesquelles les kolkhozes, l'équivalent des kolkhozes, ont existé, qui ont fait faillite dans les années 90. Et ces populations-là, je pense qu'on leur refusait quand même, c'était quand même peut-être un peu aussi notre faute, on leur refusait quelque part la dignité. Donc, ils ont du coup été très assistés par le gouvernement actuel. Donc, pour donner les chiffres, c'est quand même aujourd'hui, vous avez une aide inconditionnelle pour tout enfant jusqu'à ses 18 ans de 120 euros par mois. Et 120 euros par mois, quand vous comparez ça à un salaire moyen qui est aujourd'hui, salaire minimum, excusez-moi,
de 600 euros.
De l'ordre de 650 euros. Donc, à 3-4 enfants, vous arrivez déjà à l'équivalent d'un salaire minimum. Les retraités, c'est pareil. Je vous ai parlé de ma future retraite de 900 euros. Quand vous pensez que soudainement, et encore, c'est pas la moins forte, et quand vous regardez que le gouvernement actuel a passé des lois qui aujourd'hui octroient les 14e mois de retraite de façon inconditionnelle, les 13e inconditionnels à tous les retraités en Pologne, effectivement, ça a beaucoup aidé au succès politique. Ça a aussi poussé la dette publique.
Alors les allocations pour les enfants, on va y revenir, parce que c'est aussi pour favoriser la natalité dans un contexte où il y a une inquiétude autour du vieillissement de la population et aussi de l'exode d'un certain nombre de travailleurs qualifiés. On va en reparler, mais je voudrais d'abord vous faire entendre un extrait d'un film de Sylvester Chesinski, Aime ou Abandonne, sorti en 1977. Un jeune homme se trouve avec son futur beau-père, un vieux fermier, lorsqu'un avion survole le champ pour répandre des pesticides et effraye son cheval.
O tyle by mojemu koniowi tłumacz, bo silnie przestraszony. Byś może ochot z tego złapać.
Objectivement, le cheval appartient au passé.
Comment ? Mais il voulait me donner une belle somme pour le racheter.
Et tu as accepté ? Tu as acheté un tracteur de toute façon.
Mais comment vais-je aller à l'église ?
Tu dois être raisonnable et pas sentimental. C'est le sens de l'époque. Vendre des animaux, acheter un tracteur, mécaniser la ferme, costume cravate, un compte en banque, de la vodka au frigo, et te voilà prêt à rattraper le reste du monde. La mécanisation, c'est l'avenir.
La mécanisation, c'est l'avenir. Mathieu Witowski, voilà un extrait qui nous permet de revenir sur l'importance de l'agriculture en Pologne et de la marche de cette agriculture vers la modernité. Qu'est-ce qu'on peut dire encore sur ce sujet ?
Le film, il a beaucoup vieilli. Donc c'est l'image de la Pologne qu'on a du mal à trouver. Aujourd'hui, on chercherait cette image peut-être pour les touristes qui venaient de plus en plus pour retrouver un peu l'air frais et les produits locaux de la Pologne. Ça, l'élément principal, c'était l'accession à l'Union européenne. Les fonds qui ont été passés à l'agriculture polonaise, ils ont complètement passé aux oubliettes. L'histoire que vous venez de présenter dans cet extrait, l'agriculture polonaise, elle reste encore très éparpillée, mais de l'autre côté, elle s'est beaucoup modernisée techniquement, et de l'autre côté, le fait qu'elle s'est pas concentrée, ça aide à la qualité. Donc aujourd'hui, il y a encore 20 ans, on aurait pensé effectivement que ça pouvait être une difficulté d'avoir des fermes de taille de 10 hectares ou moins de 20 hectares en moyenne. Je pense qu'on est dans les 10. Par contre, aujourd'hui, dans la la période du verre, dans la période de la recherche des produits locaux, les produits de qualité, ça permet à la Pologne peut-être d'avoir un label spécifique de plus en plus. Ça a permis aussi de garder une qualité. Alors, ça a aussi gardé, donc la population polonaise, elle reste encore à presque 50% rurale. Donc effectivement, ça a préservé les côtés conservateurs. Donc le fait qu'aujourd'hui nous sommes gérés par un gouvernement conservateur, c'est aussi parce qu'il gagne très fortement les élections à la campagne qui, elle, était un peu, elle était perdue, un peu dans la marche accélérée à la culture et à l'intégration européenne. Parce que ça, l'influence d'un côté rural, d'autre côté, l'influence de l'église catholique en Pologne, mais ça a fait, ça a créé une disparité quand même entre les grandes villes. Donc, dans les grandes villes, malgré tous les transferts sociaux dont nous avons parlé, le parti actuel au pouvoir, il perd toutes les élections. Par contre, il gagne sans aucune difficulté sur le niveau national, avec le support presque inconditionnel de la campagne. Donc, on a un changement technologique, oui, qui s'est bien passé, un changement qui aide aussi l'exportation, qui aide la production de très bonne qualité. Par contre, pour ce qui est les révolutions culturelles, les révolutions des positions, la Pologne reste conservatrice, la Pologne rurale notamment, et elle permet de maintenir le parti actuel au pouvoir.
Był taki czas, że zabolało raz, ty zniknąłeś, gdy się stało jasno. Słuchałam łez, nie obeszło się bez, czułam jak dokoła gwiazdy gasną. Mówiłeś mi, do końca moich dni będą wciąż unosić się amory. Pięścią stół, nie mogłam dłużej już, musiałam sobie pójść, no sorry.
No Sorry de la chanteuse polonaise Sana, vous écoutez France Culture, entendez-vous l'écho, et nous poursuivons notre radiographie de l'économie polonaise en compagnie de Mathieu Witowski, le président du patronat polonais. Alors on l'a dit, la Pologne est entrée en récession pour la première fois depuis la fin du communisme, son PIB a chuté de 8,9% au deuxième trimestre. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que la Pologne paye le prix en quelque sorte de son intégration économique européenne, Mathieu Witowski?
Je pense que net, la Pologne quand même a toujours les atouts et les avantages de l'intégration, parce que quand on compare cette situation, donc cette chute de 8% au deuxième trimestre, il faut la comparer quand même avec ce qui se passait dans d'autres pays. Et quand on parle de l'intégration européenne, c'est effectivement le fait qu'aujourd'hui on nous a déjà quelque part promis, alors avec un petit bémol sur le respect de l'état de droit, on nous a déjà promis une somme d'équivalent de 7,5% de notre PIB à des aides extraordinaires pour sortir de la crise Covid. Donc quand même, je pense qu'effectivement, net, nous avons profité de la présence de l'Union européenne et nous en profitons aujourd'hui dans cette sortie que nous espérons tous pour tous nos pays de la crise de Covid. Et puis la Pologne a aussi des atouts à l'avenir pour effectivement profiter des gros projets européens comme les projets de Green Deal, de la Révolution verte, qui ont été encore confirmés aujourd'hui par Madame von der Leyen.
Je pensais plutôt effectivement à l'impact de cette crise du coronavirus sur la Pologne en ce moment, ou peut-être que l'économie polonaise souffre de son rôle de sous-traitant pour l'Allemagne, évidemment, dans cette perspective de ralentissement de l'activité. Mais alors justement, comment le gouvernement polonais essaye aujourd'hui de soutenir les entreprises et l'emploi, Mathieu Witowski?
Alors le gouvernement dans les 6 derniers mois, effectivement, d'un côté, il a très rapidement réagi en fermant les frontières. D'autre côté, quand même, il faut le dire que dans la grosse majorité de décisions, a très rapidement passé à un régime de support à des entreprises. Alors il y avait des discussions que notre qualité d'équivalent du MEDEF en Pologne, effectivement, nous avons eu des discussions sur certains systèmes d'aide. Mais ce qui est très important, c'est les aides étaient très rapides. et dans la grosse majorité inconditionnelle. Donc le fait, par exemple, que les entreprises ne payaient pas les charges sociales pendant les petites entreprises jusqu'à tout d'abord jusqu'à 9 employés, ensuite les moyennes avaient une exonération de charges fiscales pendant 3 mois. C'était pas des sommes énormes, mais d'autre côté, ça permettait de donner un signal de support immédiat. D'autre côté, on avait aussi un programme par un fonds d'État qui a très rapidement, au bout de 2 mois, a fait passer des aides financières importantes à l'ensemble des entreprises petites et moyennes. Et quand je dis moyennes, c'est vraiment jusqu'à des grosses entreprises qui sont encore traitées dans les régimes d'aide, mais tous ceux qui allaient de un employé jusqu'à même centaines d'employés recevaient rapidement des aides financières. Donc le gouvernement polonais a rapidement fait un transfert de fonds
et mis sur la table 50 milliards d'euros, ce qui est quand même considérable, mais ce qui est en même temps ce qui a été rendu possible par le fait que le pays dispose d'une marge de manœuvre budgétaire importante.
Voilà, parce que les pays a quand même la chance, parce que nos pères fondateurs de notre liberté économique, y compris M. Balcerovitch, ont cousu dans notre constitution un cap magique de 60% de la dette publique versus PIB, dans laquelle, en passant ces seuils-là, il faudrait présenter un budget équilibré à l'année budgétaire suivante, ce qui serait effectivement suicidaire pour tout gouvernement. Donc ces caps de 60%, il laisse une marge de manœuvre. Aujourd'hui, nous sommes selon la méthodologie polonaise, nous serons à la fin d'année à peu près 51%. Alors maintenant, si on utilise les méthodologies européennes où on peut vraiment comparer avec d'autres pays européens, on n'est pas à 51, on est peut-être même à 61, 62, parce que là, il y a des dettes de véhicules spéciaux du gouvernement qui ont été utilisés pour ces aides publiques, il y a les aides des gouvernements locaux.
Mais face à nos 120% probables à la fin de l'année en France, vous n'êtes pas en train de nous consoler, Mathieu Vitouski.
Voilà, je vous ai promis dès le départ, c'est que ces titres de consolation cet élément de consolation dans les titres de l'émission, j'aurais du mal parce qu'effectivement, on a un niveau les niveaux de dette qui augmentent. Donc là, il va falloir quand même qu'on arrête. Il va falloir quand même parce qu'on n'a quand même pas la même qualité des actifs en face. Donc je pense qu'on ne peut pas comparer un 120 en France avec un 120 en Pologne. Donc c'est ce que nous espérons, c'est que le gouvernement, et on voit dans le niveau de dette que le gouvernement prévoit quand même l'augmentation de la dette encore l'année prochaine, et vraisemblablement aussi nous prévoyons qu'il y a une augmentation dans 2021, mais c'est en aucun cas pas comparable avec ce qui se passe dans les pays occidentaux. Donc le pays a de la marge de manœuvre côté dette. Le pays a aussi je dirais une reprise économique quand même très vivace, parce que on dit effectivement moins 8 dans le deuxième trimestre, mais les prévisions pour la fin d'année, c'est à peu près moins 4, moins 5, restant un peu de vague, mais moins 4, moins 5, et on parle déjà d'une reprise probable de 4% l'année prochaine.
Alors il y a tous ces éléments, Mathieu Vitouski, mais il y a aussi certaines limites et certaines inquiétudes, notamment la fuite des travailleurs qualifiés qui partent à l'étranger. Pour y remédier, le gouvernement a mis en place l'an dernier une exonération totale de l'impôt sur le revenu jusqu'à 26 ans. Avec quel effet ? Eh bien, écoutez le témoignage d'un jeune salarié polonais qui se réjouit de cette mesure.
Même si je gagne un peu plus que le salaire moyen en Pologne, je ne peux presque pas économiser d'argent, car le coût de la vie est très élevé à Varsovie, en particulier pour louer un appartement. Donc oui, c'est une somme importante pour moi. Aujourd'hui, je voudrais partir à l'étranger. Les salaires sont plus élevés, la qualité de vie est meilleure et les gens sont plus tolérants. Cette suppression d'impôts ne m'a pas fait changer d'avis.
Extrait d'un reportage diffusé sur France Inter, Mathieu Vitouski, cette exonération pourrait-elle enrayer l'exode des jeunes travailleurs ? Alors, ça n'a pas l'air de suffire si l'on se fie au témoignage que l'on vient d'entendre, mais plus largement, quelles sont les conséquences en Pologne de cette pénurie de main-d'œuvre ?
Oui, alors je pense pas que cette mesure, c'est un peu, nous avons parlé de ces transferts sociaux pour les enfants, ça a pas amélioré vraiment la natalité en Pologne. Donc la Pologne a un problème de vieillissement de la population, et ce problème va continuer malheureusement. D'autre côté, l'exode, alors lui, il a été très fort au début de l'intégration européenne. La population polonaise, je crois, est passée à presque 1 million en Angleterre, au Royaume-Uni, et nous sommes devenus la première minorité nationale dans ce pays-là. C'était un peu pareil avec l'Irlande. À certains moments, les Polonais, juste pour la petite anecdote, consistaient plus de 10% de la population de l'Islande. Donc effectivement, la mobilité des Polonais est très forte. Cette exonération d'impôts 26 ans, je pense pas que ça sera un impact important. Donc on va souffrir de cette manque de la main-d'œuvre. Quand on parle de la reprise, juste un petit exemple. Ce matin, j'ai visité une entreprise sous-traitante de l'industrie automobile et à mon grand étonnement, on m'avait annoncé qu'aujourd'hui, elle utilise 120% de ses plans de production et qu'elle lançait avant, qu'elle établit avant Covid. Donc, que la reprise, par exemple, tout le système d'aide à la vente de voitures neuves dans les pays occidentaux, ça booste l'activité des sous-traitants polonais. C'est assez contre-intuitif par rapport à ce que nous disions jusqu'à là dans l'émission, mais c'était un cas quand même d'une entreprise importante qui m'a dit notre problème au bout de 5-6 mois du Covid est redevenu la manque de la main-d'œuvre. Et cette main-d'œuvre en Pologne, effectivement, grosse majorité, elle est pour l'instant sauvée par des Ukrainiens. Nous avons plus d'un million. Alors, c'est un chiffre fluctuant parce qu'ils viennent pour des périodes de 6 mois avec des permis de travail très simplifiés. Mais en général, nous avons, si on peut le dire, un stock des citoyens ukrainiens travaillant en Pologne d'à peu près 1 million. Et c'est ça les personnes qui nous aident à maintenir la production industrielle. On pensait à un moment qu'effectivement Covid allait diminuer cette vague-là, mais aujourd'hui, apparemment, de ce que je voyais dans ma visite ce matin, ces besoins sont importants et le fait que pour l'instant il y ait des quarantaines à la frontière polono-ukrainienne, ça commence déjà à poser des problèmes à des entreprises polonaises.
Donc, alors il y a l'enjeu de la main-d'œuvre, Maciej Witowski, mais il y a aussi l'enjeu de la montée en gamme de l'économie polonaise. Aujourd'hui, vous diriez que l'État devrait investir davantage dans la recherche et le développement. C'est, je crois, 1% du PIB à l'heure actuelle, contre 3% en Allemagne.
Effectivement, ça c'est la grande difficulté de la Pologne, c'est que nous restons une nation, nous restons une économie d'une sous-traitance moyenne de gamme. Donc il y avait des ambitions d'État de lancer des programmes d'aide. Alors le problème, c'est que à notre opinion, aujourd'hui la stratégie, comme j'ai déjà dit, elle est un peu une stratégie des champions nationaux. C'est un peu la stratégie de la France des années 60-70. En Pologne, aujourd'hui, on ne peut pas ordonner à des entreprises, à des grosses entreprises d'État qui elles-mêmes ont déjà des problèmes internes parce qu'elles sont basées sur l'énergie du charbon qui est trop cher, qui n'est pas assez propre. Et soudainement, le gouvernement, un peu dans le style de ce que nous avons entendu au début de la mission des années 60, on leur dit, et maintenant, en plus d'utiliser les charbons, vous allez vous lancer dans l'économie verte, vous allez vous lancer dans les nouvelles technologies, vous allez vous lancer dans l'innovation.
Et en même temps, est-ce qu'il n'y a pas un besoin de faire émerger justement ces champions polonais aujourd'hui?
Oui, mais à notre avis, une bien meilleure idée, c'est quand même les lancer parmi les entreprises privées, parce qu'on a quand même les capitaux polonais qui existent, on a les capitaux occidentaux qui sont toujours prêts à venir en Pologne, et il faut quand même les inciter à ce qu'ils viennent de plus en plus avec la recherche et le développement. La Pologne est aujourd'hui un très grand centre d'outsourcing pour les grosses entreprises, mais non seulement d'outsourcing, parce qu'au début, ça commençait avec la comptabilité. Aujourd'hui, c'est vraiment un outsourcing analytique. Vous avez des grosses banques d'affaires, vous avez des grosses sociétés de consulting, du conseil qui créent leur centre en Pologne. Vous avez des géants de l'IT, de l'informatique. Récemment, on avait des investissements annoncés de Microsoft et de Google avec des milliards qui sont investis en Pologne. Donc, je pense que nous avons démontré pendant les 30 dernières années que nous sommes franchement meilleurs dans la création de cette valeur, des montées de gamme dans le business privé, que dans la création des champions nationaux. Ça prend quand même beaucoup d'énergie et ça prend beaucoup de capitaux. Une grande ambition du gouvernement était passer au-dessus de 50% du secteur bancaire détenu de nouveau par l'État. On est passé à 65%. Je ne pense pas que ça a changé énormément dans la créativité du système bancaire polonais. Il était déjà très créatif et très moderne avant que ces grandes fusions aient lieu.
Mais aujourd'hui encore, les bénéfices sont souvent réalisés par des sociétés étrangères en Pologne et rapatriés par les sociétés mères plutôt que d'être réinvesties sur place. Maciej Witowski, cette dépendance à l'égard des entreprises d'Europe occidentale, elle est encore très forte.
Je pense que c'est ce qui est important vu des points de vue de l'équivalent du MEDEF en Pologne, c'est une question de stabilité. La difficulté que nous avons en Pologne, c'est la piètre qualité, l'instabilité juridique. C'est que vous avez, par exemple, aujourd'hui, hier même, nous avions d'un côté des annonces du gouvernement qui vouloir créer des passeports VIP pour de nouveaux investisseurs, parce que il y a derrière l'idée d'attirer des investissements, des usines qui ont été avant déplacées en Asie, qui maintenant on va essayer de rapatrier un peu vers l'Europe. Et donc d'un côté, vous avez l'annonce de tapis rouge déroulé pour de nouveaux investisseurs, mais d'autre côté, le gouvernement serre les régimes fiscaux pour les entreprises qui existent sur place. Donc dans cette piètre qualité, et je dirais pas assez de la réflexion stratégique, ça crée un désordre qui favorise pas l'investissement. Et je pense que la difficulté que nous avons en Pologne, c'est que l'investissement privé, et y compris des sociétés étrangères, il est trop bas. Et il est pas trop bas parce que les entreprises étrangères, elles veulent pas investir. Il y a des entreprises dans les domaines effectivement industriels, dans les domaines des télécoms, dans les domaines des médias qui investissent des milliards d'euros en Pologne, et il aurait pu investir plus s'il y avait plus des qualités, de la stabilité juridique. Ça, je dirais, c'est une faiblesse historique de la Pologne et qui a malheureusement pas diminué sous le régime actuel.
Il y a un autre défi important peut-être auquel fait face l'économie polonaise, c'est la faiblesse de l'épargne. Est-ce qu'il faut s'en inquiéter selon vous, Maciej Witowski?
Alors effectivement, on a un régime qui s'explique par les faits qu'on a déjà discuté, c'est que les salaires ils augmentent, mais ils augmentent quand même pas encore à des niveaux européens. D'autre côté, nous avons cette frénésie de la consommation et ça on la voit en Pologne, même dans les familles qui, je dirais que normalement dans les pays occidentaux auraient été peut-être un peu plus prudentes. Donc on n'a pas connu de crise, on n'a pas connu des grosses décélérations. Même aujourd'hui, je dirais, quand vous allez dans les rues de Varsovie, les Polonais, je trouverais, sont assez imprudents ou optimistes, si vous voulez, dans les mesures de protection. On voit bien que, je dirais, on commence à ne plus croire au Covid, ce qui est quand même dangereux parce que là, ça peut nous retomber dessus.
On a vu les manifestations anti-masques, effectivement, en Pologne comme en Allemagne.
Absolument, complètement. Et puis, effectivement, on voit les écoles en repris et on voit les jeunes qui l'on garde sous masque à l'école et puis ensuite qui descendent par des groupes de 20 ou 30 dans les cafés avoisinants. Donc, je pense qu'effectivement, la population commence à être assez insouciante et on parle de l'épargne. Donc, c'est un peu insouciant sur le futur et aussi légèrement par rapport à la situation de du Covid aujourd'hui. Donc ça c'est des éléments qui sont éventuellement des risques pour l'avenir immédiat. Mais de l'autre côté, cette faiblesse d'épargne, pour revenir là-dessus, elle est quand même compensée d'un côté par des très forts investissements d'État, et ça, de nouveau, les fonds européens, et des investissements privés. Là, c'est un peu moins brillant parce que ça a ralentissé dans les dernières années et dû aussi en partie à l'instabilité du système juridique, l'instabilité, l'imprévisibilité du régime fiscal. Nous avons la taxe sur les hypermarchés qui se promène d'être entre la décision d'être appliquée demain et d'être appliquée dans un an et de jamais être appliquée. Je dirais la situation a changé 3-4 fois dans les deux dernières années. Et ça aide pas quand vous pensez quand même que, par exemple, c'est quand même des gros investisseurs. Les grandes surfaces, notamment françaises, sont très présentes en Pologne.
On commençait à en parler tout à l'heure, Maciej Witowski. Les besoins en énergie de la Pologne vont croissant. Or, plus de 70% de l'électricité produite dans le pays vient du charbon. En janvier, le gouvernement polonais a toutefois annoncé la construction de 6 centrales nucléaires d'ici 2043.
Nous avons constamment besoin de nouvelles sources d'énergie. Il nous faut de nouvelles centrales pour qu'elles fournissent de l'électricité à l'économie polonaise qui se développe de manière dynamique. Nous entreprenons quelque chose de très important pour l'Europe. Nous prenons soin de l'environnement et nous maintenons la sécurité de l'approvisionnement en énergie. C'est un combat pour le climat et un air propre. Nous devons opérer des changements dans notre secteur énergétique. Nous devons avoir une énergie qui s'appuie davantage sur le gaz et il est probable que nous construirons aussi des centrales nucléaires.
On a entendu dans l'ordre le ministre polonais des actifs publics, suivi de l'eurodéputé Grzegorz Tobiszowski et du président polonais Andrzej Duda. Quel regard posez-vous, Maciej Witowski, sur cette volonté de se tourner vers le nucléaire?
Alors, je ne sais pas si c'est une volonté. C'est peut-être de nouveau une décision. Elle est plus, c'est plus un côté rationnel et c'est plus quelque chose, la compréhension qu'on ne peut pas aller contre le courant global et le courant européen. C'est un changement très récent. Si vous avez écouté les mêmes personnes, le même président de la République de Pologne, il y a à peu près un an et demi, maximum deux ans, il a encore parlé, prononcé des discours sur deux siècles de réserves polonaises du charbon. Et aujourd'hui, je pense que là, quand même, la détermination de la commission, de la nouvelle commission européenne a joué un point fort d'un côté. D'autre côté, les prix croissants des émissions, les prix croissants d'énergie qui sont aussi un élément qui freinent l'investissement en Pologne, ont fait complètement changer la direction par le gouvernement polonais.
Oui, il faut expliquer peut-être, Maciej Witowski, que l'industrie du charbon polonaise a souffert de la crise sanitaire, mais qu'avant cela, déjà, le charbon était de moins en moins rentable. Est-ce que vous croyez que le Covid pourrait justement accélérer la transition énergétique du pays?
Je pense que c'est un des éléments. C'est le fait que quelque part on a eu cette ces malheureux virus qui a été trouvé assez massivement dans les mines. Je dirais ça c'est des petits éléments qui font tourner un peu la société, qui permettent aux politiques de déclencher peut-être des discours un peu plus rationnels que l'émotion qui était toujours liée à cette or noir comme on disait sous le régime communiste polonais et aussi de l'autre côté le fait qu'aujourd'hui on parle de quelques dizaines de milliers d'employés. Donc quand on dit quelques dizaines de milliers d'employés en Pologne, même si vous avez des emplois qui sont liés autour de la région, avec cette continuation d'investissement, on trouvera du travail pour les mineurs de charbon en Pologne. On parle même, là, notre vice-ministre des développements, elle a parlé d'une action dans laquelle on mettrait des mineurs de charbon sur les toits, ce qui veut dire qu'on va les employer dans les photovoltaïques qui explosent en Pologne. Par exemple, la puissance photovoltaïque en Pologne a augmenté sur les 12 derniers mois de 170%. On a malgré les Covid, malgré la difficulté de la logistique, des chaînes d'alimentation par des sous-traitants, l'augmentation entre le mois de juillet et le mois d'août, elle est de, je crois, 12 ou 13% de la capacité des photovoltaïques en Pologne. Alors, il y a des aides d'État. Et pour des individus qui sont pas très forts parce que c'est de l'ordre de 1200 euros par bâtiment, mais tout ça se fait que la perception de l'énergie verte a complètement changé, elle a changé de la population. Ça a été aussi très amplifié par des manifestations des jeunes dans les villes il y a un an, il y a deux ans.
Donc un changement de paradigme, même si la Pologne refuse de mettre en œuvre l'objectif européen de neutralité carbone d'ici à 2050.
Je pense que c'est une tactique des négociations, mais je pense que la fatalité de la fermeture de charbon, elle est complètement quand même visible, mais il faut savoir quand même que les mines de charbon, c'est quand même les lieux où les syndicats sont le plus forts, c'est quand même les milieux dont les protestations sont le plus pénibles pour la ville de Varsovie quand ils viennent défendre leurs droits. Donc je pense qu'il y a une prudence politique, mais de l'autre côté, il y a un pragmatisme européen, mais il y a aussi peut-être de plus en plus de pragmatisme, de vrai pragmatisme écologique qui fait qu'on tourne de façon beaucoup plus accélérée vers les verts. Alors ça, c'est surtout les photovoltaïques, c'est aussi les éoliennes offshore. Alors pour le six blocs nucléaires, je pense que c'est plus un effet d'annonce aujourd'hui qu'un projet mature, parce que ça fait des dizaines d'années. Je pense que nos premières centrales nucléaires, mais je pense pas, on a lancé nos premiers projets, les premières fondations ont été coulées sous le régime communiste dans les années 80, et jusqu'à aujourd'hui on a déjà vécu quelques belles annonces du nucléaire polonais. Donc ça, je suis pas sûr que ça verra le jour, sachant que c'est quand même des perspectives de 20 années de plus, et la Pologne aura besoin des puissances supplémentaires beaucoup plus rapidement. Donc là, c'est plus la conversion du charbon au gaz. C'est aussi pour ça qu'il y a des investissements aujourd'hui dans les connexions des pipelines du gaz du Norvège. C'est aussi les liens qui sont tissés avec les États-Unis pour importer le gaz des schistes américains.
Merci beaucoup, Maciej Witowski, de nous avoir ainsi fait voyager en Pologne et de nous avoir expliqué les mécanismes et les origines de cette réussite polonaise. Un grand merci à vous. c'est l'heure de retrouver le journal de l'écho avec Xavier Martinet. Bonjour Xavier.
Bonjour Tiffaine, bonjour à tous.
Un anniversaire sans tambour ni trompette pour les 60 ans de l'OPEP lundi. Beaucoup disent l'organisation des pays exportateurs de pétrole en perte d'influence. Le cartel du pétrole, moins puissant sur le plan politique, a-t-il encore un sens sur le plan économique?
Eh bien, c'est déjà un anniversaire assez morne pour l'OPEP, en partie à cause de la crise sanitaire avec une cérémonie annulée à Bagdad, en partie parce que dans l'industrie pétrolière, on a plutôt envie de brûler des cierges que des bougies d'anniversaire. La demande mondiale de pétrole est en contraction pour la première fois depuis la crise financière et le baril qui surnage sous les 40 dollars est en mauvais signe pour les revenus pétroliers. On se rappelle qu'en 1960, la création de l'organisation par 5 pays producteurs était un acte de souveraineté symbolique dans le tiers-monde décolonisé et effectif sur leurs ressources. Mais en 6 décennies, c'est vrai que l'OPEP a changé de sens et de géométrie. D'abord, véritable cartel de contrôle des prix érigé contre un autre, les grandes compagnies étrangères qu'on appelait les 7 sœurs, qui à l'époque imposaient un baril à 5 dollars, rendez-vous compte, eh bien ce cartel est devenu un outil de pression politique avant de rechercher un nouveau pouvoir de contrôle plus consensuel. En 1973, en tout cas, le premier choc pétrolier marque l'entrée dans le pétrole cher et peut-être aussi l'apogée de la puissance politique de l'organisation qui avait réduit sa production et fait flamber ses prix en représailles au soutien occidental à Israël dans la guerre du Kippour. Et devant Associated Press, excusez-moi l'accent, le ministre du pétrole saoudien Ahmed Zaki Yamani triomphait. I think what we have
as an oil weapon. Vous savez, les ressources de notre arme pétrolière sont bien plus immenses que ce que nous avons déjà montré. Ce que nous avons fait, ce n'est rien du tout. Nous pourrions par exemple réduire la production à 20% au lieu de 25%. Pour nous, ça ira. Mais vous croyez que l'Europe, le Japon ou les États-Unis pourront survivre avec 80% d'approvisionnement en moins ?
Un pouvoir réel, on le voit, le quadruplement du prix du baril à l'époque avait précipité l'entrée des économies occidentales dans la stagflation, mais en inaugurant une ère du pétrole cher et en yo-yo, l'année 73 marque peut-être aussi le début du déclin de l'organisation.
Parce que le paysage pétrolier s'est modifié et l'OPEP aussi.
Oui, avec la montée en puissance des 5 super majors comme Shell ou ExxonMobil, l'affirmation de nouveaux concurrents nationaux, la Russie ou la Norvège, le pétrole de schiste américain. Résultat, l'OPEP, qui regroupe 13 pays, contrôle encore 40% de la production mondiale, un tiers des réserves stratégiques. Mais les États-Unis sont devenus le premier producteur. Ajoutez à cela la multiplication d'acteurs financiers sur les marchés qui rendent les prix moins stables. Et pour certains, la messe est dite, le cartel a perdu son influence et son indépendance politique via une Arabie Saoudite alignée sur Washington. C'est ce que disait hier sur Europe 1 Nicolas Bavrez, signe selon lui à 2 reprises récemment des tweets de Donald Trump réclamant une hausse ou baisse de production ont été suivis comme des ordres. Reste que l'OPEP est le seul cartel reconnu et admis dans le monde de marché libre actuel pour des raisons diplomatiques sans doute, mais aussi parce qu'associant des entreprises nationales adossées à des États, il conserve une certaine efficacité dans la régulation des prix.
Un levier politique affaibli, mais qu'en est-il du levier économique, Xavier ?
Eh bien, pour ce qui est du contrôle des prix, l'OPEP a su contenir la baisse des cours dans le contre-choc pétrolier de 86. Elle a pu les redresser après la crise asiatique de 98 et leur faire faire un dérapage contrôlé après celle de 2008 avec des baisses drastiques de production. Mais c'est vrai que face au ralentissement chinois, l'organisation s'est résolue à coopérer avec ses concurrents, notamment la Russie, pour couper les robinets à pétrole et sauver le prix du baril. C'est l'accord OPEP Plus en 2016. En fait, la situation s'est presque renversée par rapport à 1960. L'incertitude sur la demande est récurrente. La crise sanitaire a même provoqué une rare situation de contango lorsque l'incertitude est si forte que conserver le pétrole est plus coûteux que de le vendre à perte et en payant l'acheteur pour cela un prix négatif. Le pétrole est moins donc un risque aujourd'hui qu'une donnée fondamentale du marché. Le pétrole bat. La demande, elle, est la grande inconnue.
Symptôme de cette situation, la reprise d'une courte guerre des prix en mars entre l'Arabie Saoudite et la Russie.
Oui, après un échec d'un nouvel accord OPEP Plus en mars, Riyad avait décidé sa plus importante baisse des prix en 20 ans pour contraindre Moscou à réduire sa production. Le Kremlin a répliqué en affirmant qu'il pouvait aisément tenir 6 ans avec un baril bas et en augmentant aussi sa production. Cercle vicieux puisqu'un nouvel accord de réduction des volumes a été trouvé fin août avec la Russie. Mais du coup, l'OPEP Plus pèse sur l'OPEP historique. Le Qatar l'a quitté, l'Irak veut être exempté de quotas et les Émirats arabes unis ont carrément torpillé l'accord en le dépassant, ses quotas, beaucoup d'incertitudes. En 1975, l'OPEP se voulait le bouclier du tiers-monde. Aujourd'hui, elle doit d'abord se protéger elle-même.
Merci beaucoup, Xavier Martinet. C'est la fin de votre magazine d'économie. Demain, direction l'Espagne, l'un des pays les plus endeuillés d'Europe qui subit aujourd'hui un retour de crise.